Il dit 26 minutes, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. Pascal, comment va la voix?
C'était tellement une mauvaise idée.
Oui, exact.
Moi, j'ai vraiment... Non, pas que j'ai dit à une de mes amies, je pense que depuis que je travaille avec toi, je peux pas... C'est méchant. Ouais. Mais c'est plein d'affection, mais je vais me faire tirer des tomates par tes fans.
Oui.
Tu m'amènes dans des zones
où
que des fois,
jamais.
Je suis comme... Voyons.
Ouais,
mais
ben,
c'est bon parce que c'est un échange.
On appelle ça une mauvaise influence.
Oui, mais je trouvais ça drôle, sauf que moins drôle en ce moment.
Oui. Ah, tu le regrettes là?
Ben je le regrettais pendant que je le faisais, mais tu dis vas-y encore, fait que le Lego est embarqué.
Hey, on a le plaisir de recevoir le conseiller municipal du district Mézeray-Layret et chef de l'opposition officielle de Québec d'abord. Monsieur Villeneuve, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous.
Eh oui, vous êtes allé voir Grégory Charles hier.
Grosse soirée au bureau, hein?
Eh oui.
Hey, mais Grégory Charles, wow, là, ça devait être exceptionnel.
Ben d'abord, signe que je vieillis, j'ai des acouphènes ce matin. Là. C'est rendu que j'ai des acouphènes en allant
Arrêtez.
Voir Grégory Charles.
Mais pas... le son était pas fort.
Ouais, le son était fort, mais en fait, c'est que c'était l'activité de reconnaissance des bénévoles de la Ville de Québec. Ça se déroulait au Centre Vidéotron. Puis c'était vraiment chouette. Les gens étaient contents d'être là. Puis bon, Grégory Charles, tu sais, que t'aimes ou t'aimes pas, ben, d'abord, dans son répertoire, il va finir par chanter des tunes que t'aimes. Il a même chanté la chanson des débrouillards, c'était malade. Puis, fait que c'était une belle soirée. Non, c'était vraiment chouette. Puis c'est un phénomène, Grégory Charles, on se le cachera pas. T'es content de l'avoir à Québec.
Ouais, puis à chaque année, vous faites une soirée reconnaissance pour les bénévoles?
Ouais, ben généralement, ils font ça par arrondissement. Puis ça va être à la salle Albert Rousseau, au Palais Montcalm, au Capitole, là, selon les années. Toujours une fois d'année, il y a eu Ludovic Bourgeois. Une autre année, il y a eu André Sauvé, mettons. Des trucs plus consensuels, disons. Puis là, ben, c'est ça. Pour la première fois cette année, il le faisait au Centre Vidéotron.
Ouais.
Tout le monde ensemble, il y avait 8000 personnes. Puis c'était quand même chouette là, de voir les gens. Ils sont contents d'être là. C'est pas tous des gens qui sortent beaucoup dans la vie, qui s'achètent ce genre de spectacle-là. Puis là, ben, que la ville leur offre ça pour leur remercier pour leur implication, pour faire vivre la ville. Ben, moi, j'étais content de ça. Puis nous, comme conseiller municipal, ben, c'est l'occasion de voir. C'est tout du monde qu'on a l'habitude de croiser dans toutes les activités.
Ben,
où
oui.
Va.
Mais c'est incroyable de voir année après année, c'est toujours les mêmes visages hein,
ouais.
Qui se donnent comme bénévoles un peu partout dans plein d'organisations. Ils sont importants, ces gens-là.
Bénévoles, ça le dit, c'est gratuit. Là, ouais. Ils font ça gratuitement, mais qu'ils reviennent. Moi, c'est ça qui me fascine. Puis vous avez dit, M. Villeneuve, c'est pas des gens qui vont sortir beaucoup, qui vont se gâter beaucoup, mais ils donnent. C'est un peu ironique hein, de voir ça. Puis, tu sais, en tant que contribuable, il y a sûrement des sous de nos taxes qui ont passé dans cette soirée-là.
Oui, moi, c'est financé par la ville.
C'est ça.
Ouais.
Moi, une des affaires qui me dérange pas, c'est bien cette soirée-là, Grégory Charles au Centre Vidéotron. Qu'on a fait tout le monde ensemble, probablement pour des raisons, dans une probablement sous location du Centre Vidéotron, on a demandé
on a,
un
comme,
échange.
Comme ville,
autre,
on a un certain nombre de soirs qu'on
c'est
peut
ça,
utiliser.
C'est ça, gratuitement.
Mais
ben, j'espère.
On paye le loyer. Mais, on a des
moi,
soirées gratis.
Hein? C'est pas le genre de dépense sur lequel je vais lever le nez.
Ouais. Il charge combien, Grégory Charles?
Ça, je sais pas, par exemple. Il y avait, bon, il y avait 8 musiciens sur scène, puis
oui.
Il nous a souligné, par exemple, que lui-même, ça fait 41 ans qu'il fait du bénévolat quoi, avec les petits chanteurs à Montréal, dans le chant choral lui-même.
Okay.
Il disait, moi, je suis un bénévole moi-même. Fait que bon, on devine que ce soir, hier soir, ça rentrait pas nécessairement dans ses activités extracurriculaires, on va le dire comme ça, mais il était là, puis ça a fait plaisir aux gens. Puis, tu sais, Pascal, on se le cachera pas, comme élu, pour nous autres, participer à des activités comme celle-là, c'est du bonbon, là,
oui,
aller voir le monde participer avec les gens, c'était vraiment agréable.
Vraiment, vraiment. Hausse des crimes violents, Québec.
Ben oui.
Je pense que on regardait un peu les médias, là, vous et moi, là, tous les jours, on s'informe à savoir qu'est-ce qui se passe dans notre belle ville, puis on savait que les chiffres n'allaient pas être de super chiffres là, pour ce qui est des crimes violents. On peut faire quoi? T'sais, même si on dit que Québec est encore une ville très sûre, de voir qu'il y a une montée de la violence comme ça, M. Villeneuve, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de demander d'avoir plus de policiers sur le terrain?
Bien, c'est sûr que l'effectif policier, ça en fait partie. Ça, c'est évident. Puis moi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup quand je me promène partout en ville. Les gens, ils ont besoin de les voir, les policiers. Ils veulent que ce soit au Saul, que ce soit dans Neuchâtel, que ce soit bien, dans mon district, dans Mézeray. C'est, les gens, ils veulent une présence policière. Puis nos policiers demandent là, d'avoir plus d'effectifs. Puis Montréal a eu un financement particulier pour ça. Nous, à Québec, on le demande encore. Ça, c'est fondamental. Maintenant, tu sais... Pourquoi on a plus de violence? Pourquoi on a plus de crimes? Ben, tu sais, c'est que t'sais, manifestement, on a des secteurs de la ville où qui sont moins sûrs que d'autres, où on grandit moins avec moins de ressources, avec moins où on va peut-être adopter des modèles qui sont plus négatifs pour essayer de s'en sortir. Quand là, je vous parle du phénomène des gangs de rue, mm-hmm. C'est on le voit là que ça commence à arriver à Québec. Là, on a notre petit feuilleton là, avec la gang de Pic-Turmel puis d'un côté, puis les Hells de l'autre.
Ouais.
C'est sûr que il faut donner aux jeunes d'autres modèles que ça pour grandir, avoir l'impression qu'ils peuvent s'en sortir. Ça, c'est fondamental.
Mais, tu sais, je vais peut-être être un peu plus dur que vous, là, qu'on oblige nos policiers à faire de l'intervention psychologique là, dans le centre-ville de Québec. Je trouve que ça n'a comme pas de bon sens. C'est pas leur métier. Ces gars-là devraient être accompagnés constamment de psychologues. Malheureusement, les psychologues ne les suivent pas dans l'autopatrouille. Puis ils nous disent que c'est 80% des interventions qu'on fait au centre-ville de Québec, c'est pour des gens qui ont des problèmes psychologiques. Tu sais, à un moment donné, il va falloir se parler d'en face puis se dire les policiers sont pas là pour ça. Là, on s'en sert comme ça, mais il devrait avoir plus d'intervenants puis que les policiers soient attitrés justement à des crimes plus violents.
Bien, ça, les policiers le disent eux-mêmes, là, quand on leur parle, c'est, t'sais, nous autres, c'est pas notre job d'intervenir. Nous autres, notre job, c'est quand on constate une incivilité ou une infraction, c'est de la faire cesser. Hein? Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Puis de la judiciariser au besoin. Parce que c'est pas tout qui a besoin d'être judiciarisé. Maintenant, là, prendre soin de quelqu'un, l'amener dans un refuge, y trouver des souliers, c'est pas la job des policiers. Là. Il y a des super bons partenariats. Là. Il y a le groupe Pêche, notamment, qui est présent à Saint-Roch. Eux, là, ils ont un super partenariat avec les policiers. Les policiers appellent, eux autres, ils se déplacent, mais ils ont des ressources limitées.
Ouais.
Puis c'est ça, à la fin aussi, c'est que... Il y a beaucoup de nos missions, là, de nos groupes, là, comme le PIPQ, comme Pêche, comme plein de groupes actifs en itinérance, sont financés par le ministère de la Sécurité publique, parce que finalement, on leur fait faire ce travail-là. Mais c'est un problème de santé publique dont ils s'occupent, ces gens-là, dans le fond. Fait que, tu sais, il faut peut-être plus intervenir à la base, dans des services sociaux, puis moins... ça n'a pas besoin d'être un policier avec une matraque là, qui aille s'occuper d'un itinérant. C'est pas là qui est le plus utile.
Entièrement d'accord. Mais est-ce que la ville peut faire quelque chose? Est-ce que la ville peut interdire aux policiers de faire ce genre de travail-là à un moment donné?
Ben, on peut pas leur interdire en ce sens que si les policiers le font plus, ben il va y avoir un trou là, présentement.
Parfait. La nature a horreur du vide. Va falloir le combler, ce trou-là. Qu'est-ce qu'on va faire?
Ben là, ça va nous prendre des ressources supérieures. Puis c'est sûr que souvent les maires se font traiter de quêteux. Mais moi, quand François Legault a traité notre maire de quêteux, j'ai dit c'est parce que si tu finances pas, François Legault, si tu finances pas tes missions sociales, tes missions de sécurité correctement, ben c'est sûr que les villes vont continuer d'être quêteux.
Mais dans le dossier de quêteux, puis dans le dossier d'incompétent, est-ce que Pierre Poilievre a mentionné pour ce qui est du maire Marchand. T'sais, moi, je suis peut-être pas du même avis que vous. Je suis entièrement d'accord avec Poilievre. Je suis entièrement d'accord avec le premier ministre François Legault, même s'il s'est excusé ou il a fait des semblants d'excuses. Avant de commencer à quêter de l'argent au palier supérieur, on peut-tu regarder ce qui se passe dans notre organisation? Les audits de performance du RTC ne sont pas encore sortis. Puis on a un Bruno Marchand qui vient encore chercher de l'argent dans nos poches en nous disant « Hey, c'est courageux ce que je fais. » C'est pas courageux de piger dans les poches des contribuables avant même de regarder ce qui se passe dans ton organisation.
Là, il y a énormément de sujets.
Je sais,
on vient de parler là, ça joue à poigne dans ma tête.
Commençons par le premier.
C'est quoi les missions des villes? Okay? Ouais. Offrir du transport en commun, c'est une mission des villes.
On est d'accord.
Les audits de RTC, avoir ça géré le mieux possible, ça, c'est une mission des villes. Ça, c'est la job des villes.
Même si c'est Geneviève Guilbeault qui l'a demandé.
Oui, mais à la fin, on n'a pas le choix. Il faut que ce soit tight, il faut que les gens ils savent qu'on met beaucoup d'argent dans le transport en commun, il faut que le service soit efficace. Puis quand on regarde là, les chiffres de fréquentation du RTC, là, le maire dit tout le temps ça, à vélo, ça va bien. Flexibus, ça va bien, mais le service, on se rend compte que le service régulier, c'est là qu'il est parti dans des secteurs comme Vanier et tout ça. T'sais, est-ce qu'on met de l'argent à bonne place? Ça, c'est l'émission des villes. Mais quand on parle de services sociaux, quand on parle d'intervention sociale, ça, c'est l'émission du gouvernement
du
Québec.
Mais dans le dossier de quêteux, c'était le RTC.
Oui, mais ça, en fait, c'est qu'il y a tellement de dossiers où les villes, les maires se tournent vers le gouvernement du Québec que maintenant, ils ont l'air d'être des quêteux. Mais il faut faire la différence entre les sujets où c'est dans la cour des municipalités, puis les sujets qui devraient être dans la cour du gouvernement du Québec.
Mais êtes-vous d'accord avec ça, qu'avant même de regarder dans sa propre organisation, au RTC, on aille chercher 10$ de plus, qui est un montant pour dire qu'on va chercher un montant de plus dans les poches des gens?
Ça va être plus que 10$. Très bien.
Ben, vos mères à la ville me disent entre 60 et 90$ de plus.
Ouais, ça ressemble ça. Ben, pour combler le déficit du RTC, si c'est ça l'objectif, ça prendrait 100$ de plus.
Mais comment on sait que pour combler, ça prendrait ça alors qu'on n'a même pas fait l'audit de performance?
Ben là, c'est ça. On va voir
qu'est-ce
que ça.
Si j'avais une entreprise privée, là, avant de demander de l'argent et de l'aide à tout le monde, là, je regarderais ce qui se passe dans mon organisation.
L'an passé, le déficit du RTC, c'est 27-30 millions. Puis chaque tranche de 10$ rapporte 3 millions. Fait que c'est comme ça qu'on le calcule, le 100$. Mais c'est ça. Après les audits, est-ce qu'on va faire des gains? Là, on l'a vu cette semaine. semaine, par exemple, ils coupent les navettes pour les grands feux d'Auto-Québec. Là, ça a l'air qu'on sauverait 10 000 $ avec ça.
Ça, c'était une affaire pour les médias. Là, ben, c'est pour montrer à quel point on souffrait au RTC.
Nous autres, on voit, par exemple, que le nombre de cas du RTC, là, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais tu sais, c'est en dedans, depuis la nouvelle administration, on est passé d'à peu près de 250 à 380 cas. Tu sais, c'est comme une augmentation d'à peu près le tiers. C'est beaucoup.
Ça s'est amélioré?
Ben, en fait, c'est que ça va. On a de plus en plus de cadres personnels d'encadrement au RTC.
Mais le service est amélioré?
Ben, ça, j'ai pas l'impression que c'est le cas, effectivement. Là, vous avez vu, il y a de plus en plus de départs annulés au RTC.
Ouais.
Les gens qui comptent. Puis là, tu sais, une 800 annulée, c'est tel que tel, là, t'attends la prochaine 10 minutes après. Exact. Mais quand on départ sur un trajet qui part aux demi-heures,
aux heures.
Ça peut vraiment te gâcher ta journée.
Parce que vous et moi, on est d'accord que ça nous prend un service de transport en commun efficace. Là où on s'entendra probablement jamais, c'est jusqu'à quel prix? Tu sais, moi, là, je veux dire, je regarde depuis les dernières décennies, c'est tout le temps entre 6 et 8 % des gens de Québec qui prennent le transport en commun. Mais quand je regarde l'augmentation des budgets qu'on accorde au RTC à chaque année, puis il n'y a pas plus de monde qui prennent l'autobus, je me dis, quand est-ce que vous allez arrêter? Quand je dis vous, je parle de vous en général.
Mais je pense que ça, c'est la variable importante. Ben oui. Est-ce qu'il y a plus de monde qui le prennent? Parce que si on fait des déficits, c'est une chose. Mais si on fait un déficit quand il y a moins de monde qui le prennent, et où statu quo, et où moins de services, et où... Puis ça continue comme ça, c'est là où moi, dans mon analyse de citoyenne, là, fille à radio, je suis comme le boblesse.
Mais t'es d'accord avec moi que pendant la pandémie, les villes devaient compenser au RTC?
On était d'accord avec ça.
C'est ça. Mais c'est qu'il faut trouver des nouvelles sources de revenus. Puis on a créé quelque chose au RTC, ça s'appelle Capital Mobilité. Puis ça devait justement gérer comme tout l'aspect de la publicité sur les abribus, le parc immobilier, on peut-tu avoir comme dans le métro à Montréal, des dépanneurs dans certaines stations de métro, tu sais. Ouais. Puis là, moi, je pensais que ça servirait à générer du revenu pour financer le transport en commun. Mais non, finalement, il y avait tout dans la vélo. Puis à vélo, c'est très bien, c'est un succès, c'est le fun. Mais sauf que à chaque fois qu'on demande au maire, ouais, puis comment ça va au RTC? Ah, à vélo, ça va super bien. À vélo, c'est pas du transport collectif, c'est du transport actif. C'est une bonne initiative, ça va, mais des fois, on se demande si c'est pas un petit peu en train de vampiriser l'émission du RTC, de fournir du transport collectif aux gens. Quand tu regardes, là, il y a une augmentation de la clientèle au RTC récemment. Là, on revient au niveau d'avant la pandémie, c'est bien, mais c'est sur les parcours réguliers. Les parcours express, ils deviennent moins populaires parce que ça, c'est beaucoup du monde qui sont en télétravail présentement.
Tout ce qui se passe en construction ou sur les ponts, c'est sûr, ça peut influencer un parcours quand tu passes dans une voie rapide en ce moment. En tout cas, c'est à considérer aussi les bouchons qu'on a depuis un bon bout. Je m'excuse, inspection de voie. On l'a dit, arrête de rire, Yannick, on continue.
Mais c'est parce qu'il faut être capable d'adapter le service. Je le vois, là, que je circule en transport en commun ou que je circule en auto. Lundi, vendredi, c'est très tranquille sur les chemins. Mardi, mercredi, jeudi, ouf, on a une autre dynamique. Mm-hmm. Tu sais, est-ce qu'il faut moduler le nombre de départs? Est-ce qu'il faut moduler comment le service est donné? Est-ce qu'on a besoin des mêmes express à tous les jours? J'aimerais ça qu'on regarde de ce côté-là, qu'on fasse l'optimisation. Mais là, c'est ça, c'est que la solution, finalement, c'est tout le temps d'aller piger l'argent des poches du monde. Puis on n'a pas fait cet exercice-là avant de se demander qu'est-ce qu'on peut mieux faire puis où est-ce qu'on peut sauver.
Il faut tout le temps se dire, une compagnie privée ferait quoi? En tout cas, moi, dans ma vision, là, je me dis tout le temps, une compagnie privée ferait quoi? Elle se démerderait, puis je m'excuse là, du mot québécois, là. Elle trouverait une façon d'aller chercher de l'argent par elle-même. Je comprends qu'on a un avantage pour sauver certaines affaires qu'on a mises en place, comme les réseaux de transport en commun ou autres. Dans une ville, il y a de l'essentiel. Il y a des besoins essentiels, puis ça ne peut pas être rentable. C'est difficilement rentable.
C'est un service public.
Tout ce qui est transport, c'est un petit peu difficile. Sauf que si tu as une vision de service public, ben, tu vas avoir une rentabilité et ou une fonctionnalité qui va être de service public. Puis au moment où tu te challenges plus, toi, comme un entrepreneur ou une business de privé, c'est là où tu perds toute crédibilité auprès de tes citoyens. Là. Faut pas que tu oublies de qui vient l'argent, pourquoi est-ce que cet argent-là est implanté, qui te donne sa confiance derrière tout ça pour gérer des montants qui ne vont pas être d'avoir plus de nourriture sur leur table, qui va être peut-être justement d'aller à la bouchée généreuse une fois de temps en temps parce que tu n'arrives pas. Ton argent est géré comment?
Bien, tu sais, ça nous amène à la question de la transparence. Là. Je vous parlais l'autre jour de Capital Mobilité. Bien, l'autre jour, voilà, 5 minutes, en fait, de Capital Mobilité. C'est que ça, on n'a pas accès aux chiffres, hein, on n'a pas accès aux livres là, de cette structure-là qui était supposée générer d'autres revenus pour financer la mission de transport en commun. Puis c'est sûr, tu sais, viser la rentabilité. Il va toujours avoir des circuits. Il faut desservir le nord de la ville, ça prend du service à Beauport, à Neuchâtel, où tu n'auras pas le même achalandage que ça à Ussap. C'est correct. Il faut que le service soit offert. Puis tu peux pas le voir comme juste une entreprise privée qu'il faut toujours.
Mais ça, je comprends. J'habitais à l'Ange-Gardien toute ma vie. On disait trop l'Ange-Gardien. On pétait des notes des trois filles à mon père parce qu'on n'avait pas de possibilité de se voyager. Qu'ils nous achetaient un vieux scooter, un Aveo, qu'ils en dressent un bicycle. Mais il était tanné. Je comprends pour desservir ces coins-là. Mais Je pense pas qu'il y a juste ces périphéries-là.
Non.
Dans tout ce qui est en train d'être une problématique au RTC.
Ah non, c'est clair. Puis c'est, les gens, ils veulent qu'on rende des comptes. Puis, tu sais, nous, comme élus, quand on pose des questions, on arrive à avoir des réponses. Mais encore là, c'est quand c'est les citoyens qui posent des questions, puis hey, « pourquoi vous avez enlevé l'abribus sur le coin de ma rue? Ah, ben parce qu'il est en fin de vie, puis on n'a pas d'argent pour le remplacer. » Mais que tu vois sur l'autre bord que le RTC bouge des cadres, puis tu sais, ça achète pour 35 000 piastres de tasse pour
qu'on
de
deux
employés.
Qu'on a un abribus réchauffé qu'on n'a jamais compris.
Ben,
pourquoi? Puis vous, quand
c'est
vous posez
normal
des
qu'on
questions,
questionne ces choix-là.
Quand vous avez des réponses, là, qu'est-ce qu'il y a en arrière? Il y a le fait que le parti politique en place ne veut pas que ça soit un outil de guerre politique pour vous. Fait qu'ils vont vous répondre le plus possible. Mais quand un citoyen n'est qu'un vote parmi tant d'autres pour ce parti politique-là, puis qui pose des questions, puis qu'il n'y a pas de réponse, puis le meilleur exemple qu'on peut avoir ces temps-ci, c'est juste les discussions des gars de la Marmotta qui voulaient avoir avec la Ville de Québec qu'on n'a pas réussi à avoir ou qu'on s'est fait sortir, puis qu'ils ont tout fait dans les règles de l'art. Quand ils n'ont rien à gagner de ça, vous, on vous répond pas parce qu'on a le goût, c'est qu'on ne veut pas que ça devienne cet outil politique-là. Mais ça... Je commence à trouver que c'est difficile à Québec.
Bien, ça c'est clair. Ça. On pourrait pas être plus sur le sujet. Là. Nous, quand on pose des questions à Maud Mercier-Larouche, la présidente du RTC, elle nous dit toujours « Ah, oh, vous avez juste à m'écrire. Vous avez juste à m'envoyer un courriel. Je vais vous répondre. » On a un service 5 étoiles. C'est écœurant. C'est vraiment bon. Mais le citoyen, lui, il n'a pas ce genre de suivi-là. Puis nous, comme élus, ben, c'est sûr que c'est un peu notre job de faire cheminer les demandes. Mm-hmm. Mais maudit que les citoyens ne sont pas traités de la
puis,
même façon.
Rien
là.
Contre vous, M. Villeneuve, ou toute opposition. Mais les premiers qui devraient se faire répondre, ce sont les citoyens. C'est même pas les partis d'opposition.
Bien, souvent, nous, quand on va poser une question, c'est un citoyen qui
absolument.
Nous
absolument. Vous êtes le chien
nous.
De garde citoyen, c'est le rôle de l'opposition. Mais vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais souvent, souvent, ce qui se font répondre les citoyens, c'est « Ah, on voudrait bien vous donner ce service-là, mais le gouvernement ne donne pas assez d'argent. » C'est que le chien se mord la queue à un moment donné. Là,
quand vous allez être maire un jour, M. Villeneuve, est-ce que vous allez demander... les performances de nos pistes cyclables l'hiver par rapport à ce que ça nous coûte, les déneiger. Est-ce que vous allez le demander ou vous allez faire comme Bruno Marchand en disant non, les pistes cyclables, ça va très bien, puis c'est correct si ça prend un petit peu moins de 10% de notre montant, de notre budget au déneigement. Il n'y a pas de chiffre exact pour ce qui est des fréquentations de nos pistes cyclables. Ça fait en sorte que certains groupes d'opposition disent « Ah, ben là, on va taxer les cyclistes en hiver. » Moi, je pense que c'était une boutade là, pour essayer d'attirer l'attention. Mais taxer les cyclistes en hiver, ça n'a comme pas de bon sens, on va se le dire. Mais les performances n'ont jamais été analysées.
Mais ça, c'est typique de l'administration Marchand. C'est que tu fais un projet pilote. Puis tu dis « Ah, on commence, là, c'est juste un projet pilote, là, on va voir comment ça va. » Puis avant même d'avoir les chiffres de ton projet pilote, tu vas de l'avant pour implanter le projet de façon définitive. Les chiffres sur le chemin cette fois, on les a pas. Il y a des caméras qui ont été posées, qui ont été
mais on a eu des beaux chiffres, trop... là. Les polices, ils donnent moins de tickets.
C'est ça. Ben, c'est sûr. Mais ça, on le sait, c'est connu. C'est sûr que si tu as moins large de voie de circulation, ça va circuler moins vite. Et c'est normal. Ça, c'est évident. Ouais. Ça va de soi. Puis n'importe où,
si
tu vas le faire.
Si tu plus de trafic, d'habitude, les policiers ne seront pas là pour faire du radar parce qu'ils savent très bien que s'il y a du trafic, il n'y a pas d'excès de vitesse.
Pis si les chars sont à queue leu-leu, puis qu'il y a un autobus de RTC qui fait des arrêts, puis qui embarque du monde, puis tout ça, c'est sûr que tu ralentis le trafic. Ça, il n'y a pas à sortir de ça, il n'y a pas de surprise. Mais combien y a de personnes qui l'utilisent, la cyclable? C'est quoi la fréquentation? Est-ce que la justification, finalement, de ce choix-là? Non, on n'est pas capable d'avoir cette information-là, mais c'est sûr que pour l'administration Marchand, c'est pas un choix rationalisé là, de développer les pistes cyclables en disant le besoin est là, c'est que c'est idéologique. C'est que ça, tu sais, une piste cyclable, c'est mieux que, à leurs yeux, que n'importe quelle autre utilisation de la route, puis elle se justifie en elle-même, à leurs yeux. Tu n'auras jamais de chiffres, puis on essaie d'en avoir, puis sont juste pas là. De toute façon, le choix de poursuivre avec l'initiative est déjà fait, que même si on n'aurait pas le justificatif.
C'est 150 km de pistes cyclables qu'ils veulent rajouter, de ce que je comprends, là. Capitaine Bretel, son prénom, c'est
Pierre-Luc
Lachance. Lui a dit, ben, on a fait cette piste cyclable-là, puis on est content parce que ça a fait en sorte que les automobilistes vont moins vite. Ouais, mais si tu crées de l'achalandage, si tu crées du trafic, c'est sûr que les automobilistes, ils peuvent pas avancer. Fait qu'il y aura pas d'étiquettes qui vont se donner là. Puis il se dit, on va continuer d'en mettre à certains endroits. Ils vont-tu nous bloquer encore certains boulevards, certains accès?
Ben, moi, ce que je crains, en fait, c'est qu'on va détourner des... Tu sais, on parlait de transport en commun tantôt, on va détourner des transports en commun.
Ben oui.
On les amène d'un quartier, donc créer une circulation lourde dans des rues résidentielles qui ne sont pas adaptées pour ça. Puis faire en sorte que ça va être plus compliqué pour les gens de se rendre à leur arrêt, qui vont être. Tu sais, les arrêts vont être découplés. Tu sais, en direction nord, il va passer sur telle rue, puis en direction sud, il va passer sur une autre rue. Puis ça, c'est pas bon en transport en commun parce que c'est pas intuitif pour les gens de pas prendre l'arrêt sur la même rue. Quand ils prennent le même trajet, en fait, parce qu'à un moment donné, ils viennent perdus. Ça fait en sorte qu'il faut, tu sais, il y a des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées qui dépendent de ça. Ils vont devoir marcher plus, ils vont devoir se rendre plus loin. C'est que c'est l'usager qui passe avant tout en sous l'administration Marchand présentement, c'est les cyclistes. Puis moi, qu'on fasse passer les vélos, que quelqu'un fasse le choix de se déplacer par ses propres moyens, puis tout ça, c'est pas quelque chose qu'il faut décourager. J'aime absolument pas ça. Le problème, c'est que présentement, dans la vision de Bruno Marchand, c'est au détriment de tous les autres usagers. T'sais, on parle de guerre à l'auto, mais moi, je vous dis, c'est aussi à l'autobus puis au piéton, la façon que c'est fait présentement.
Dossier de la bouchée généreuse, on a des nouvelles de la bouchée généreuse. Ils auraient finalement réussi à se trouver un local. Ce serait en face de l'ancien Sucyre, à Place Fleur-de-Lys, l'ancien commerce Sears. En face de ça, il y avait un garage qui était là, qui est un ancien garage Sears de mémoire.
Moi, je pense que oui. Oui. Hein?
Garage, entrepôt ou garage? On entrait notre voiture et changeait nos pneus.
Je pense que c'est ça. C'était comme Canadian Tower.
Je t'allais me faire mettre un Q-tips dans le nez là, durant la pandémie.
Je me demandais où est-ce qu'on en allait.
Un drôle de garage. Mais toujours est-il que la bouchée généreuse va aller là. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'administration Marchand a jamais daigné rencontrer les gens de la bouchée généreuse? Puis ce sont encore des investisseurs privés qui sont un peu tannés de voir des gens souffrir comme ça sur le bord de la rue, qui disent « Regarde, venez chez nous pendant un certain temps, le temps que vous puissiez bâtir une autre bouchée généreuse. » Pourquoi l'administration Marchand, pourquoi Bruno Marchand s'est pas déplacé pour aller les voir? C'est pas compliqué.
Bien, c'est un grand mystère. Moi, j'ai fait beaucoup d'interventions publiques là-dessus, puis la bouchée généreuse, je vais souvent. On l'a réclamé de toute façon possible et imaginable qu'on leur trouve une solution temporaire. C'est ça, il faut bien le dire. Ils déménagent pas là de façon définitive. C'est le temps de reconstruire leur actuels locaux là, sur le même terrain. Bon, là, il y a d'autres affaires qui s'en viennent. C'est qu'il y a un petit bout de terrain supplémentaire qui appartient à la ville présentement qui va peut-être être acquis là, par la bouchée généreuse. Je parle au conditionnel parce que, bon, c'est des choses qui sont en discussion. Il y a un projet de reconstruction qui chemine à la ville. Sur ce côté-là, j'ose penser que les choses vont bien, mais effectivement, Bruno Marchand, il n'a pas levé le petit doigt pour les aider à se relocaliser temporairement pendant leur reconstruction, malgré toutes les demandes qu'on a faites. Puis il a été très froid dans sa façon de répondre à Pierre Gravel, l'âme dirigeante de la bouchée généreuse. Puis il n'a jamais voulu le rencontrer, il a toujours envoyé des.
Mais est-ce que ça parlait dans quel monde? Tu sais, mettons, là, je sais pas.
Québec, 2024.
Non, je cherche, là. Écoute, Sœur Angèle. Elle veut me parler. Puis je veux pas y parler à Sœur Angèle. Mais je comprendrais pas pourquoi je voudrais pas parler à Sœur Angèle.
Surtout qu'elle fait de l'excellent sucre à crème.
Puis pour vrai, je comprendrais pas pourquoi je répondrais bête aussi à Sœur Angèle qui veut me parler. Comprends-tu? Quand on est dans ce genre de...
situation-là.
Ouais. Ou ce n'est que favorable, ou ce n'est que pour aider. Puis si tu peux pas aider, tu peux pas aider, tu le dis. Si tu peux pas... Mais Yannick, toi puis moi, ça se peut que maintenant, je te réponde pas. Si tu me fais suer une journée, ça nous arrive pas encore, mais admettons que ça nous arrive. Je comprendrais, les auditeurs comprendraient, ils nous écoutent à chaque jour. Ah,
quand ça va bien, toi puis moi, tu me réponds aux 3 jours.
Oui.
Fait que j'ose pas imaginer si ça irait.
Si ça irait, ça va mal. Mais tu comprends-tu quand? On peut pas être contre la vertu. C'est là où moi, M. Villeneuve, j'ai besoin d'explications. On nous les donne pas.
Mais il y en a pas d'explications. Tu sais, puis je vais faire une boutade là, mais tu sais, est-ce qu'en Chine, un citoyen chinois qui a des problèmes peut aller rencontrer l'administration en haut?
C'est une grosse
boutade. Ce que j'aime beaucoup des Chinois, c'est que quand ils veulent faire passer quelque chose, ça va très vite.
C'est une grosse boutade, et t'as aussi dit « chitoyen », puis j'ai adoré ça.
Chinoyen?
Les chitoyens en Chine.
Je sais pas, on sait pas pourquoi Bruno Marchand a refusé de quand rencontrer les gens de la bouche généreuse, mais ça en dit beaucoup sur l'homme.
Quand un policier refuse de rencontrer un citoyen, c'est qu'il a peur de devoir s'avancer. Il a peur de devoir... promettre quelque chose. Il a peur de devoir
s'engager. C'est comme des parents avec leurs enfants. S'ils ont peur de s'engager, ils vont expliquer pourquoi. Ils vont aller proposer des solutions. Ils vont dire « ce n'est pas possible en ce moment, voici pourquoi, mais je tente à travailler. » Un parent explique ça à ses enfants. C'est-tu moi, là?
Mais c'est parce qu'il y a aussi que la politique, c'est fait de relations humaines. Faut pas se le cacher. Puis, tu sais, je le sais que, en tout cas, moi, ce qu'on me raconte, c'est que quand Régis Labeaume rencontrait Pierre Gravel dans le temps, les rencontres se passaient pas toujours bien. Mais tu sais, c'est que Régis, il avait une approche très « Ah là, Pierre, là, la veut du ton d'argent, là, qu'elle enveloppe et qu'elle voit plus, puis tu sais que ça se passe là. » Mais c'est ça, mais c'est parce que je le vis, moi, dans mon district. Là, des fois, j'appelle un organisateur communautaire ou quelqu'un qui est impliqué dans un groupe, puis tout ça. Puis là, des fois, je dis « Voyons, pourquoi ça fait pas ton affaire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, que ça fasse? » Puis c'est sûr, des fois, pas dire que le ton monte, mais on se parle dans le blanc
mais
des
oui,
yeux,
mais
tout ça.
C'est des conversations sincères et honnêtes. Moi, il y a un auditeur, je vais le nommer, il s'appelle Michel, OK? Sur ce que je fais depuis des années, il est extrêmement critique. Des fois, il dit « C'était de la pourriture ce que tu as fait. Il va me le dire, je ne suis pas toujours en accord, mais il va y avoir des dialogues qui vont se faire parce qu'à un moment donné, il y a une crédibilité aussi qui se crée, mais surtout une authenticité.
Ben, c'est ça. Il y a une relation qui se
bâtit. Il y a une relation, puis il ne faut pas tout le temps que tu sois en quelque chose.
Mais là, laisse pas
facile.
Michel te parler n'importe comment parce qu'elle
parle. Non, il, c'est correct, là, c'est Michel. Là, c'est... Mais ça, c'est, dans les communications, il ne faut pas que ça freine.
C'est ça, c'est qu'il faut bâtir une relation. Puis des fois, on sait que Bruno Marchand, il n'est pas intéressé à bâtir ces relations-là avec les gens. Il n'est pas intéressé à investir de sa personne, de sa présence, de son, j'ai envie de dire, authenticité, pour essayer de régler des problèmes comme ceux-là, puis essayer justement d'apporter des solutions. C'est pas le genre... T'sais, Bruno Marchand, il est beaucoup, j'ai coutume de dire qu'il gouverne la ville à 30 000 pieds. Là,
mais Yannick, des fois, tu trouves que c'est plutôt en fait une candidature pour passer certains projets que pour gérer des choses qui étaient à gérer dans la ville. C'est plutôt comme ça que tu l'exprimes de ta vision.
Moi, c'est comme ça que je le vois, là.
Ben, c'est ça, mais une ville, ça ne gère pas à 30 000 pieds, ça gère au niveau du trottoir. C'est ça, la réalité. Là.
Exact. C'est puis à un moment donné, tu sais, il faut que tu y ailles avec... tu sais, on est des hommes, on est des femmes, on est des valeurs fondamentales. Puis d'aider les moins bien nantis, là, ça devrait faire partie de tous les êtres humains. C'est une valeur fondamentale qui devrait faire partie de ça. Puis je me rends compte que mon maire semble insensible au moins bien nantis. Puis ça m'agresse beaucoup. Loi 21. Bon, ce qu'on a vu comme statistique, c'est que il y a de plus en plus de contrats qui sont octroyés pour bâtir des édifices à logement dans les derniers mois. Curieusement, ça coïncide avec le moment où on a un futur premier ministre du Canada qui a dit « Moi, je ne donnerai pas de l'argent à des gens qui sont incompétents en la matière. » On a eu des statistiques comme quoi Valérie Marchand a énormément de misère.
Valérie Marchand, là, il vient comme de merger dans ta tête.
Non, mais
là,
c'est
là.
Intentionnel.
OK.
Les deux se ressemblent. Elle a énormément de misère à octroyer des contrats pour la construction à Montréal. Puis là, à Québec, ça semble bien aller, de ce que je comprends.
Là, il se passe des affaires. Ça commence, ça a pris du temps. C'est que depuis septembre passé, il y a un plan d'action de mise en œuvre de la vision de l'habitation. Puis au compte-gouttes, on pose des gestes. Puis on annonce des affaires, un congé de taxes pour le développement des infrastructures. Puis là, qu'est-ce qu'on a? On a assujetti un certain nombre de terrains que la ville va acheter pour pouvoir les utiliser pour faire du logement social. Tout ça, les choses se passent tranquillement. Puis là, nous, la décision qui a été prise par la ville là, d'utiliser les dispositions de la loi 31 pour faire avancer ce projet-là, nous, on pense que c'est un beau projet, c'est intéressant. Là. Mais c'est ça, ça a pris du temps, puis tranquillement, pas vite, il y a des gestes qui sont posés. Mais c'est parce qu'il y a une urgence, là, la crise, là, vous le savez, là, dans un mois, ce que vous allez avoir aux nouvelles, là, c'est des gens là, qui ne sont pas capables de se loger pour le 1er juillet puis qui sont à la rue. Là, puis les demandes à l'OMHQ, présentement, là, ça rentre à peine à la planche. Là. C'est que ça a pris beaucoup de temps. Puis là, ils commencent à déjà s'opposer. Fait que moi, comme chef d'opposition, je ne veux pas critiquer, je veux encourager ça, mais ça a pris beaucoup de temps avant de sentir que le maire se mobilisait sur la question du développement de l'habitation.
Parce que ça commence à être de plus en plus inquiétant. Il y a des gens qui se ramassent à la rue. Il y en a qui font du van life. Il y a des gens, des gars, des travailleurs et des travailleuses qui dorment dans leur voiture présentement. Puis il y en a d'autres qui sont carrément à la rue. Si je me promène dans le secteur de l'Aube-Rivière, c'est d'une tristesse là, ce qui se passe là. Tu te dis, mais ces gens-là ont besoin d'endroits où habiter. Puis on dirait qu'il y en a de plus en plus, année après année. Il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Là.
Puis on a besoin de tout. Hein? Tu sais, le taux d'inoccupation est faible à grandeur de la ville puis pour toutes les catégories de logements. Les logements qui ont été annoncés hier, c'est pas du logement social, c'est du logement, disons, plus moyenne haut de gamme, là, disons-le comme ça.
Mais ça va amener une offre qui va faire en sorte qu'il va peut-être avoir des logements ailleurs moins chers qui vont se libérer.
Les gens sont sceptiques quand on dit ça, mais c'est super bien démontré par la science économique. Ouais. C'est que si tu libères des logements, si tu crées des logements de meilleure qualité, tu vas être meilleur, plus haut de gamme, disons, pas qu'ils sont moins de qualité moindre, mais tu vas quand même libérer des logements moins coûteux, on va le dire comme ça. C'est ça, puis parce que le monde dans la vie veut aller vers ça,
veulent progresser.
Maintenant, t'es plus étudiant, t'es rendu avec petite famille, tout ça. Donc, c'est positif. Puis, en fait, moi, ce que je trouve souvent, puis c'est un petit peu la critique que j'avais hier, c'est que ce projet-là, il a été soumis à consultation publique dans le coin cette fois. On parle du projet, c'est quoi, c'est la forêt. C'est sur la rue La Forêt, c'est que les gens, ils étaient pas contre le gabarit, t'es pas contre la hauteur. Il disait, oh, par contre, ça va amener beaucoup plus de trafic dans notre coin. Avez-vous des solutions? Je trouve que quand on avance des projets comme ça, on arrive pas avec des solutions pour réduire les irritants comme ça. Puis ici, c'est la mobilité. Donc, mais sinon, ça reste un super beau projet, puis il faut que ça bouge à un moment donné.
Ce qui est annoncé sur Dorchester, le stationnement Dorchester qui va changer du tout au tout.
Ouais.
Un beau projet?
Oui, vraiment. Moi, je suis à Québec depuis 2002. OK, je trahis mon ignorance là-dessus. Je sais pas ça fait combien de temps que c'est à Gravel, là, ce coin de rue-là. Là.
Ben,
c'est
en fait, depuis que je suis jeune.
Oui, mais c'est ça. Hein, j'ai jamais vu autre chose là que là. Et c'est un projet très ingrat à redévelopper. Ouais. Hein, il est comme... pas droit, là. C'est pas oblique.
C'est l'ancien édifice du Soleil, là. C'est juste à côté. C'est le stationnement qui est à côté de l'ancien édifice du Soleil.
Derrière, nous, on réfère à la fabrique, le pavillon de l'Université Laval, là, puis où il y a des bureaux de la ville. Tu veux développer ça, il faut que tu aies des espaces verts. Puis sinon, tu payes une taxe de parc. Il faut que tu aies du stationnement. Il faut que tu aies. Là, il va y avoir un relevé archéologique à faire parce que c'est un terrain d'intérêt. Il va y avoir de la décontamination à faire. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu donnes la chance au promoteur de rentrer dans son argent. T'sais. Puis, on est dans une société capitaliste. Dans la vie, pour donner le goût aux gens de faire des affaires, il faut leur donner la possibilité de faire des sous. Sinon, ben, ça va rester un stationnement à Gravel. Puis, tu sais, c'est un projet que si on avait une redevance de transport, comme M. Marchand voulait en faire une pour le tramway, qui ne se ferait pas, là, ça, soyons très clairs là-dessus. Fait que moi, que le promoteur veuille développer en hauteur pour être capable de rentrer dans son argent, pour remieuter un coin de la ville qui en a vraiment besoin. Tu sais, les Trudel, ils travaillent bien. Je peux pas avoir, comme élu, je peux pas avoir de préféré parmi les promoteurs, mais non. Si tous les promoteurs à Québec pouvaient travailler de la même façon que Trudel, j'aurais pas mal moins de cheveux blancs. Là.
Ah, en fait, j'abandonne pas.
Peut-être plus de cheveux.
Mais c'est-tu pour ça qu'il travaille bien? Tu sais, moi, William Trudel, là, j'adore le voir pagayer dans tous ses projets puis les accomplir. Mais c'est parce qu'il y a aussi du front tout le tour de la tête. Là. C'est un ancien policier. Il mène au bout ses projets. Il connaît comment ça fonctionne à la Ville de Québec parce qu'il a été à l'interne. Puis je vous dis pas qu'en politique municipale. Là. Mais il est chanceux malgré tout. Puis on lui fait confiance par la crédibilité qu'il a. Un promoteur qui n'a pas ce parcours-là, mais qui est super efficace et efficient. Est-ce qu'il tombe en deux chaises, justement, parce qu'il n'a pas le front de bœuf, peut-être, qu'un Trudel a?
C'est parce que les Trudel, quand ils arrivent et qu'ils demandent un permis, là, ils ont déjà parlé à la population. Ils ont déjà consulté. Ils ont déjà demandé aux gens qu'est-ce que vous voulez avoir à ce coin de rue-là. Ils font un travail. Tu sais, nous, comme élus, quand il y a un promoteur qui arrive, bon, d'abord, moi, comme élu, un projet qui est complètement conforme au règlement, je ne le vois jamais. OK? Il fait juste circuler dans ma chaîne, puis on n'a pas de décision à prendre dessus. Souvent, ben, puis les gros projets, ben, ils vont avoir besoin de dérogation pour les sur-hauteurs, pour ces affaires-là. Ouais. C'est là que c'est compliqué. Fait que nous autres, comme élus, quand ça arrive, la question que tu poses, c'est ouf, OK, comment mes citoyens vont réagir à ça? Mm. Fait que là, c'est là que tu as une petite sueur froide, puis là, tu dis, OK, les gens vont trouver ça où? Ils vont trouver ça gros. Quand les Trudel viennent te voir pour un permis, ils ont déjà fait ce job-là.
Ils vont pas se faire dire qu'est-ce que les citoyens vont. Ils vont être. Mais d'après moi, ils le déposent pas tout de suite sur la table. Ils attendent la question, puis après ça, ils le déposent sur la table.
Mais c'est ça le front de but des Trudel, c'est qu'ils attendent pas, ils attendent pas avant d'aller voir le monde, puis ils attendent pas avant d'aller consulter, puis ça marche. Moi, j'aimerais ça que ce que Trudel fait, que ça devienne la norme à Québec.
Mesret, comment ça va?
Ah, là, il y a des problèmes d'odeur présentement. Là, je sors ça comme ça. Là, mais les deux dernières fins de semaine, là, il y a comme. Okay. Puis là, on va être vigilant en fin de semaine. Là, on ne sait pas d'où ça vient.
Mais c'est clair que c'est des gaz. Hein?
Ben, c'est,
oui, mais quel
les
genre?
Gaz de qui?
Mais, c'est, non, ça, mais je veux dire, dans ce secteur-là, il y a plein de, il y a des marais, il y a des, ça doit venir de là, c'est clair.
Ben, il y a des sols contaminés, ouais, qui ont été brassés un peu par des travaux récemment. Il y a la nouvelle usine de biométhanisation. Puis là, les citoyens réagissent beaucoup. Là. C'est l'été, il fait beau, les gens veulent ouvrir leurs fenêtres. Pis,
c'est sûr que quand t'as une bouteille de Febreze qui passe aux deux jours, ça peut être un peu tannant.
Ben moi, pour l'avoir senti moi-même, c'est comme une odeur de navet fermenté. Là. C'est un peu bizarre. Wow. Là. C'est comme.
C'est là, un grand rêve éveillé, habiter dans Mesret.
Ouais, non, mais c'est ça. Là. J'essaie d'apporter cette situation-là à l'attention des autorités parce que ça, je trouve que c'est une grosse nuisance. Puis dans le quartier, on en subit déjà pas mal des nuisances. Ah, ouais. Puis on n'a pas besoin de celle-là par-dessus.
Mais le parc Mesret, ça va?
Ah, le domaine de Mesret, ben, oui. Ils se sont mis en printemps. Là. Ça a pris du temps. Là. C'était magané au début du printemps. Il y avait des gens qui réagissaient, mais ça, il y a eu beaucoup d'abattage d'arbres, c'est sûr. Mais
c'est tellement un bel endroit. C'est un beau bijou.
C'est un jardin. Dans le secteur. Ouais. C'est, les gens qui s'occupent du domaine de Mesret, ils le traitent comme un jardin. Ils s'en occupent, ils le connaissent. Mais là, c'est sûr que ça va prendre des plantations parce qu'il y a beaucoup de frênes qui ont été abattues. Là.
Claude Villeneuve, chef d'équipe Québec d'abord, merci beaucoup d'être passé.
Bien, ça me fait plaisir.
Je vous souhaite de passer.
Toujours ça, venir vous voir.
Yes. Oui, une belle fin de journée, puis on se rejase prochainement. Merci.
Avec plaisir.
Midi 59, on vient. Marceau, le